vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte, sans agressivité, les rouages de l'économie mondiale. La semaine dernière, nous nous étions penchés ici, à cette heure-ci, sur la manière dont les économies africaines réagissaient à la catastrophe sanitaire du Covid-19. Celle-ci a provoqué la première récession continentale depuis 25 ans. Nous allons aujourd'hui continuer sur cette lancée avec une des grandes voix de l'économie africaine contemporaine. Bonjour Carlos Lopez.
Bonjour Jean-Pierre.
Carlos Lopez, vous êtes au Cap d'où vous nous parlez, Covid oblige. Vous y êtes aujourd'hui professeur d'université à l'économie et quand les frontières sont ouvertes, vous enseignez également à Sciences Po Paris et au Royal Institute of Foreign Affairs de Londres. Je rappelle que vous avez dirigé jusqu'à peu la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « L'Afrique et l'avenir du monde », sous-titre « Repenser le développement ». En France, ce livre est publié aux édition du Seuil, et comme vous l'avez écrit en anglais, c'est une traduction de Cyril Leroy. Dans ce livre, toutes les grandes questions que se posent les citoyens africains sur l'état économique et accessoirement politique de leur continent sont soulevées. Dans cette émission avec vous, Carlos Lopez, nous allons donc parler industrialisation, agriculture, nouvelles technologies, nouveaux paradigmes de développement et j'en passe, mais nous parlerons de tout cela à la lumière de la pandémie de Covid-19. Comment pourrions-nous faire autrement? Et puis, pour illustrer notre propos, bien sûr, il y aura des reportages. Nous avons rendez-vous avec Denise Maéo à Lubumbashi, en RDC, avec Kaourou Magassa à Bamako, au Mali, avec Noé Ouché-Baudin à Addis Abeba, en Éthiopie. Carlos Lopez, ce livre, votre livre, est la traduction tardive d'un ouvrage que vous avez publié en anglais il y a 2 ans. Le titre anglais, c'était « Africa in Transformation, Economic Development in the Age of Doubt ». La traduction littérale, ça pourrait être « L'Afrique en mutation, le développement économique en question ». Alors, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce titre « L'Afrique et l'avenir du monde » ? C'est pas un titre un peu racoleur destiné à une opinion publique française qui a une vision un peu caricaturale de l'Afrique ?
Non, quelque part, les deux titres se ressemblent. C'est le propos du livre de démontrer justement que nous sommes en train de vivre une mutation qui va engendrer des transformations globales et que l'Afrique a un rôle à jouer dans toutes les transformations globales et pas seulement dans les transformations qui se passent dans le continent lui-même. La traduction, elle n'est pas littérale. Elle a eu des ajouts, elle a eu des modifications. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié de pouvoir revisiter l'ensemble des propos du livre. Livre original dans cette version française.
C'est un livre qui a été écrit avant cette catastrophe sanitaire mondiale, avant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, réécririez-vous le même livre ? Diriez-vous les mêmes choses dont on va parler tout au long de cette émission ?
Moi, je pense que s'il y a quelque chose à prendre de ce qu'on a vécu pendant cette dernière année, c'est l'accélération d'un certain nombre de phénomènes qui étaient déjà présents. Les grandes tendances sont les mêmes et le rôle de l'Afrique ne fait qu'augmenter par rapport à ces tendances, ce que j'ai démontré par exemple du point de vue démographique, du point de vue écologique, est tout à fait confirmé par le désastre pandémique et ce qui va se suivre.
Alors, mais comment est-ce qu'on peut écrire que l'Afrique est l'avenir du monde quand elle a subi, comme le reste de la planète d'ailleurs, une sévère récession? Je disais tout à l'heure que c'était la première récession en Afrique depuis 25 ans.
Parce que justement, les gens tendent à voir l'Afrique d'une façon un peu avec les yeux du passé, tandis que dans l'avenir, on aura plus de 40% des jeunes qui seront africains. À partir de 2035 plutôt, nous aurons un enfant sur deux qui sera africain.
Et un donc, enfant sur deux dans le monde.
Dans le monde, ne serait-ce que du point de vue démographique, c'est l'avenir.
Alors, vous disiez qu'on regardait l'Afrique avec les yeux du passé. Qui regarde l'Afrique avec les yeux du passé ? Qui ?
L'ensemble du discours des médias et ça inclut bien sûr les protagonistes africains voient l'Afrique un peu comme le fournisseur de matières premières, la terre d'opportunités toujours non confirmées, la crise, les difficultés financières, le manque de mobilisation de l'épargne interne, etc. Donc il y a un certain nombre de clichés qui persistent.
Carlos Lopez, vous avez des mots assez sévères qu'on peut inclure dans ce chapitre « Les yeux du passé » sur le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Vraiment très sévère.
Tout à fait. Et je ne fais que confirmer ce que, par exemple, le bureau d'évaluation du FMI a dit avec des propos qui n'ont pas fait la une, qui n'ont pas été diffusés, mais qui sont aussi sévères que les miens, en disant qu'il y a un esprit de corps qui ne permet pas la pensée libre, que ces institutions instituent un certain canevas de conditionnalité qu'ils essayent de confirmer avec des statistiques tronquées et truffées. Donc il y a tout un tas de déclarations dans ces documents internes qui ne sont pas complètement diffusés qui justifient, disons, mes propos assez sévères.
Revenons sur le FMI, la Banque mondiale, vous dites que les conditionnalités, alors qu'est-ce que vous appelez les conditionnalités, sont liées à des statistiques truquées?
Parce que, en effet, ce que vous avez vu pendant la période dite de l'ajustement structurel, qui a duré une vingtaine d'années, tous les années 80 et 90, c'est justement un certain nombre de politiques qui étaient prescrites au pays et sur lesquelles, disons, on influençait l'ensemble des choix, soit macroéconomiques, soit de développement. Et ces choix n'ont pas vraiment produit aucun des résultats escomptés. Tout ce qui avait été déclaré comme objectif qui justifiait des politiques austères n'a pas vu, disons, des résultats tels que étaient annoncés. Et donc finalement, les pays se sont retrouvés comme des étudiants bien disciplinés qui faisaient ce qu'on leur disait sans qu'ils aient des résultats dans les examens. Et donc nous avons la preuve de cela avec des statistiques qui sont produites par ces institutions elles-mêmes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça est basé sur un ensemble de principes de politique économique qui sont normalement empruntés de l'école monétariste de l'économie néolibérale, qui se traduit dans une liste qui est produite par l'FMI régulièrement. La dernière a été produite en 2018, qui est la liste des conditionnalités pour pouvoir accéder aux différents programmes de ces institutions.
Et qui font passer les pays en développement ou les pays candidats à l'aide du FMI et de Banque mondiale sous des fourches caudines, c'est ça?
Tout à fait. Nous avons eu une évolution remarquable et depuis la crise 2008-2009, l'ensemble des principes macroéconomiques néolibéraux a été mis en cause par les agents économiques les plus importants du monde, notamment les banques centrales des pays les plus riches. Et donc nous avons maintenant un FMI qui est en plein désarroi par rapport aux théories du passé et qui essaye avec un certain succès de se renouveler, de se reformer et de proposer vraiment des ouvertures et une flexibilité qui n'existaient pas auparavant. Et c'est aux Africains de profiter de cette ouverture qui a été renforcée pendant la crise de la pandémie. Donc nous avons actuellement pratiquement un jeu ouvert sur tout ce qui est politique macroéconomique. Il n'y a aucune des conditionnalités du passé qui est reprise telle quelle par les propositions du FMI faites de nos jours.
Vous voulez dire que les pays africains aujourd'hui peuvent taper à la porte du FMI, que ça sera plus facile d'obtenir de l'aide que ça ne l'était par le passé?
Il suffit d'être bon négociateur.
Et est-ce que l'Afrique a des bons négociateurs?
Là, nous avons, disons, un bilan qui est contrasté. Il y a un certain nombre de pays qui ont développé des capacités de négociation considérables et qui ont vraiment un discours qui montre qu'ils ont une reprise de leur capacité non seulement de négociation, mais même de planification. Mais il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas ces caractéristiques. Donc nous avons vraiment un peu de tout. Mais je pense que ceux qui sont les plus en avance sont en train d'ouvrir des portes. C'est des pays qui négocient très bien, des pays comme l'Égypte, des pays comme le Maroc, des pays comme le Rwanda, comme la Namibie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Kenya. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire vraiment des progrès remarquables pour transformer, disons, la relation avec leurs partenaires. Et je pense que le ministre des Finances du Ghana, actuellement, est peut-être une des voix qui est la plus, disons, des plus fortes dans la contestation des caractéristiques du passé.
Alors on va aller, esprit de contradiction qui nous est propre ici à Ecodici Eco d'ailleurs, dans un des pays que vous n'avez pas cité, Carlos Lopez, en RDC, et c'est notre première illustration des conséquences de la pandémie de Covid-19. En RDC, l'activité des PME, des petites et moyennes entreprises, tourne au ralenti, le chômage augmente, les revenus de la population baissent dans un pays où le taux de la pauvreté est déjà de 73,1%, chiffre précis, selon la Banque mondiale. Alors vous nous direz s'il faut croire ce chiffre tout à l'heure. C'est un reportage à Lubumbashi, capitale économique de la RDC, qui est signé de notre correspondante sur place, Denise Maël.
Ange tient son salon de coiffure au quartier Makomeno de Lubumbashi. Assise sur une banquette, elle est seule avec son téléphone. Il est 13h et il n'y a pas de client depuis le matin.
Pour que les gens viennent se faire coiffer ou, je sais pas moi, se faire belle, généralement c'est pour une fête, pour aller à l'église. Mais depuis Corona, les femmes ne font plus ça souvent. Du coup, en fait, le marché n'est plus comme avant, quoi. Avant, on pouvait faire 100$, mais maintenant, pour le moment, on peut faire même 40$, 50$ par jour, vous voyez. Et pas forcément tous les jours, mais certains jours.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent également le secteur de l'emploi. Il y a 7 mois, Arthur Tuita et une centaine de ses collègues ont perdu leur emploi. Arthur était jusque-là contrôleur au sein de l'entreprise minière Chemical of Africa, basée à Lubumbashi.
Le 14, le mois d'avril 2020,
le 14 avril 2020, alors que nous étions en plein service, le chef du personnel nous a demandé de signer un document de mise en congé technique suite à la pandémie. Il a promis de nous reprendre dès que la situation sanitaire se stabilisera. En juillet, nous nous sommes présentés auprès de notre employeur et sa réponse, votre contrat a été résilié. Voilà, nous sommes dans la rue, mes enfants ne vont plus à l'école, je n'ai pas d'argent pour payer les frais de scolarité.
Le secteur public n'est pas épargné par cette crise, notamment en province. Âgé de 60 ans, cet agent administratif au gouvernorat du Haut-Katanga à Lubumbashi, qui a préféré garder l'anonymat, a vu son salaire réduit de moitié et son avenir est incertain.
Il y a eu une baisse de salaire de moitié pendant plusieurs mois. Il y a eu aussi la suppression de certains avantages liés à la scolarité de nos enfants, liés aux soins de santé. Je peux vous dire par exemple que depuis que le Covid est là, avec les conséquences, je suis incapable d'acheter un pagne à mon épouse. Je suis incapable de renouveler les habits de mes enfants, y compris mes propres habits. Vous voyez ce que ça fait ?
Pour faire face à la crise économique due à la pandémie, la société civile du Haut-Katanga a proposé au gouvernement, tant provincial que national, un plan d'appui aux ménages vulnérables. Fortuna Mbayo, cadre de la société civile du Haut-Katanga.
Nous avons proposé, par exemple, qu'il y ait un fonds d'accompagnement qu'on puisse subventionner des petites et moyennes entreprises et même les familles directement affectées par le coronavirus pour que, après cette période, que quand même les familles puissent se relancer.
Entre-temps, le 18 juin 2020, la RDC avait lancé son programme d'urgence d'atténuation des impacts du Covid-19 axé sur la riposte, l'appui à la stabilité macroéconomique et le soutien aux populations. Le coût total est estimé à près de 6 milliards de dollars. Mais aux yeux de la société civile locale, aucune action concrète vis-à-vis des populations vulnérables et des petites et moyennes entreprises n'a été mise en œuvre jusqu'à présent.
Un reportage signé Denise Maéo à Lubumbashi. 6 milliards de dollars débloqués par le gouvernement de Kinshasa, mais visiblement pas grand-chose qui soit arrivé là-bas, à Lubumbashi. Carlos Lopez, comment jugez-vous la réactivité économique des gouvernements du continent face à la pandémie ?
Bon, nous avons encore une fois des pays qui ont très bien fait. Ils ont pu vraiment amortir un peu les effets de la pandémie en prenant des mesures de protection sociale qui était assez innovante, comme par exemple dans le cas de la Namibie, du Togo, l'introduction des applications mobiles pour la distribution de bénéfices sociaux et qui vont rester après la pandémie. Nous avons aussi eu un certain nombre de pays qui ont pris des mesures assez importantes de protection des petites et moyennes entreprises et qui ont pu par exemple baisser les impôts ou même les éliminer, qui ont pu établir des mécanismes pour financer provisoirement un certain nombre d'activités, etc. Mais nous savons que beaucoup de pays n'ont pas eu la latitude pour pouvoir introduire de telles mesures, parce qu'ils étaient déjà avec des caisses qui ne pouvaient pas tenir la pression même des obligations antérieures à la pandémie, comme par exemple le service de la dette.
La RDC est un de ces pays ?
La RDC est un pays qui a eu des problèmes de gouvernance économique depuis un certain temps, qui dépend beaucoup des matières premières d'exportation sans transformation. C'est vraiment le cas typique du pays avec un modèle colonial qui prévaut de nos jours, ce qui est assez paradoxal. Nous avons une situation où 35 pays africains ont une dépendance des matières premières au-delà de 80% de leurs exportations.
C'est un sujet que vous abordez très longuement, effectivement, dans votre ouvrage. Lubumbashi pourrait être l'incarnation de ce que vous décrivez, dénoncez, c'est-à-dire une province, le Katanga, le Haut-Katanga, très riche en matières premières, en minerais, et pourtant une ville, une population, un pays pauvre.
Écoutez, c'est vraiment incroyable que dans le pays où il y a la plus grande concentration de cobalt et de coltan, qui sont absolument essentiels pour les industries d'avenir, et voilà pourquoi quand je parle de l'Afrique comme l'avenir du monde, c'est aussi de ce point de vue. Un certain nombre de minerais stratégiques pour les industries de demain sont concentrés en territoire africain. Et la RDC est vraiment le pays qui regorge de plus de moyens pour pouvoir complètement transformer sa structure économique, mais ce n'est pas ce qui se passe. Elle est toujours dépendante d'exportations sans transformation, elle exporte les emplois avec. Une bonne partie des exportations sont d'ailleurs illicites, elles ne passent pas par les mécanismes formels de l'économie. Donc c'est vraiment la démonstration, c'est presque caricatural du propos que je dénonce dans mon livre.
Mais comment résoudre cette contradiction ?
Il faut que les pays puissent avoir vraiment une transformation structurelle profonde de leur économie. Normalement, ça se passe avec une politique industrielle qui est assez conséquente, avec très peu de priorités, avec un alignement des agents économiques et des institutions, avec un investissement considérable, soit dans le capital humain avec l'éducation, soit dans les infrastructures pour permettre la modernisation de l'économie. Et ça se fait seulement quand il y a un leadership qui est capable d'avoir trois qualités essentielles. Avoir de l'ambition pour pouvoir bien entendre les conséquences des transformations rapides qui s'opèrent dans tous les pays africains. Avoir de la sophistication, c'est la capacité de pouvoir avoir de la priorisation et de ne pas tout faire en même temps. Et avoir de la cohérence, c'est la capacité de pouvoir vraiment aligner l'ensemble de ces interventions autour de ces priorités identifiées. Et donc, je pense que nous n'avons pas ces caractéristiques en RDC, mais la RDC est un pays qui est en convulsion politique et qui est actuellement un peu victime, disons, d'une certaine instabilité, on espère. Moi, je suis très convaincu que ce sera un pays avec un grand avenir et un grand potentiel, non seulement parce que son poids démographique va être gigantesque, mais aussi parce que, justement, du point de vue écologique et du point de vue des potentialités d'avenir, c'est un pays qui regorge de ressources.
Oui, mais ça fait une éternité qu'on dit ça.
C'est vrai, et c'est dommage. Et c'est un peu ce que je dénonce dans mon livre, c'est que le manque de transformation structurelle des économies a en partie été empêché par des politiques venant de l'extérieur qui ne permettaient pas suffisamment de flexibilité et d'interprétation dans les différentes opportunités de choix. Mais une bonne partie des difficultés est aussi interne et notamment politique. Moi, par exemple, je consacre tout un chapitre sur la question de la diversité, le fait qu'on ne respecte pas la diversité. C'est un système politique qui est un peu caricatural et qui donne aux gagnants le pouvoir de tout faire sans respecter les différences et sans avoir, disons, les contrepoids qui permettent un peu plus d'équilibre social.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des économies africaines avec Carlos Lopez à l'occasion de la parution en français de son livre qui s'intitule « L'Afrique et l'avenir du monde » qui est paru aux éditions du Seuil. Alors, vous avez parlé d'industrialisation, on va en parler longuement un peu plus tard dans l'émission, mais je voudrais qu'on continue un peu à parler matières premières parce que c'est un sujet important, puis ça va nous mener peu à peu à parler de l'agriculture. Concernant les matières premières, vous déplorez par exemple que les pays africains se fassent imposer leurs prix par des multinationales et vous citez l'exemple du cacao. La Côte d'Ivoire, le Ghana sont les deux principaux producteurs de cacao au monde. À eux deux, ils en produisent plus de la moitié. Et vous citez le contrôle de 60% de la production mondiale par une entreprise, Cargill, ce qui affecte en particulier les petits producteurs ivoiriens. Comment est-ce qu'on peut essayer d'inverser ce rapport de force, Carlos Lopez ?
On ne le fera pas en exportant le cacao tel qu'on le fait actuellement, c'est-à-dire sans le minimum de transformation parce que il n'y a pas de capacité de garder la production. Donc ça oblige à négocier l'évacuation de ce qu'on produit dans une période assez courte et donc ça donne un poids prépondérant à l'acheteur dans la transaction. Par contre, si on le transforme en pâte de cacao, on gagne énormément de flexibilité de négociation parce qu'on peut la garder, la pâte, et puis ça permet justement de pouvoir contrôler les stocks par le pays exportateur plutôt que par les entreprises qui importent. Et donc, la transformation en pâte de cacao, ce n'est pas faire du Toblerone, ce n'est pas faire du Godiva, ce n'est pas faire du chocolat qui est extrêmement cher et qui a vraiment la plus grande valeur à cause, disons, d'un savoir-faire, des questions liées à la propriété intellectuelle, les marques, le brevet, tout ça. Mais c'est un élément de transformation qui est à la portée de ces pays et qui permet déjà une création énorme d'emplois modernes et qui permet justement de pouvoir aller dans l'échelle de la sophistication qui ensuite permettra au pays d'évoluer au niveau suivant. Et donc je pense que dans pratiquement toutes les matières premières, nous avons ce potentiel, mais bien sûr il est encore plus grand dans les matières premières dans lesquelles l'Afrique a disons, la majorité de la production. Et c'est le cas du cacao, c'est le cas de beaucoup d'autres matières premières, où nous avons la plus grande partie de la production mondiale, et donc on devrait pouvoir négocier des prix d'une façon plus, disons, sophistiquée. L'Éthiopie l'a démontré avec la façon dont ils ont évolué dans la vente de leur café.
Alors, vous défendez l'idée selon laquelle l'agriculture africaine doit être utilisé comme un instrument de transformation globale de l'économie continentale, c'est-à-dire.
Vous savez, nous avons toujours un discours qui dit l'Afrique a 60% des terres arables non utilisées du monde, l'Afrique a un potentiel agricole énorme pour alimenter le reste du monde, l'Afrique regorge de ressources halieutiques. Donc vous avez ce discours qui est un discours qui ne nous mène nulle part. Parce que la difficulté actuelle que nous avons avec l'agriculture, c'est le fait que nous n'avons pas d'irrigation. Donc il y a seulement 9% de l'agriculture africaine qui est irriguée. Nous n'avons pas d'infrastructure qui permet de réduire la perdition. Nous sommes maintenant à presque 30% de la production qui est complètement pourrie. Nous n'avons pas des instruments de financement des petits et moyens agriculteurs. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre des risques même. Donc, ils sont obligés de faire de la subsistance. Et donc, tout cela contribue à créer, disons, une situation où l'Afrique a le taux de productivité le plus bas de l'agriculture mondiale.
Donc, comment changer ça et comment faire que l'agriculture soit un instrument de transformation globale de l'économie du continent ? Ce qui est ce que vous proposez ?
En essayant de sortir du carcan qui est actuellement encore prévalent en Afrique, de considérer le secteur primaire comme un secteur social. Donc nous avons beaucoup de programmes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la sécheresse, de sécurité alimentaire, lutte contre la faim, et tout ça, depuis 40 ans, n'a pas produit de résultats. Pourquoi ? Parce qu'on traite l'agriculture comme un secteur social. L'agriculture est un secteur économique. Et si on veut vraiment le traiter d'un point de vue économique, il va falloir introduire l'industrialisation. On a toujours mis l'industrialisation à dos de l'agriculture, comme si c'était des compétiteurs pour les ressources de l'État, pour l'attention des politiques. Non, normalement, l'industrialisation d'un pays commence justement par la transformation agricole. Et donc, il va falloir montrer en Afrique, ce qui a été observé un peu partout dans le monde, que les liens entre l'agriculture et l'industrialisation sont l'élément essentiel pour augmenter la productivité agricole.
Donc, il faut des investissements importants.
Des investissements qui puissent effectivement désenclaver les difficultés, les points d'achoppement qui existent dans les systèmes économiques actuels qui ne permettent pas de développer l'agriculture. Mais il ne faut pas penser que ces investissements viendront nécessairement de l'extérieur. Une partie, certainement. Mais je pense que la plupart des investissements qui sont nécessaires en Afrique dépendent d'une bonne réforme fiscale, du fait que, disons, les États africains dépendent beaucoup plus de la rente qu'ils reçoivent des matières premières plutôt que des activités économiques de leur pays, où il y a beaucoup d'exemptions qui se transforment en corruption, où il y a énormément de perditions parce qu'il y a manque d'efficacité de l'appareil fiscal et surtout parce qu'on n'utilise pas l'épargne d'une façon productive. Nous avons beaucoup d'argent dans les fonds de pension qui ne servent pratiquement à rien parce qu'ils sont mal gérés.
Dans les fonds de pension africains ? C'est-à-dire, il y a des fonds de pension importants financés par l'épargne africaine ?
L'estimation de la Commission économique pour l'Afrique, c'est que nous avons 1000 milliards de dollars de fonds de pension en Afrique. Et donc, il y a suffisamment d'argent dans les fonds de pension pour pouvoir financer le développement. Mais justement, le fait d'être mal géré, le fait que la sécurité sociale, elle est vraiment un enfant qui ne produit pas de performance et reste un enfant parce qu'on lui donne pas les moyens de devenir plus complexe et sophistiqué dans la structure économique, ne permet pas de profiter de cette épargne qui existe déjà.
Alors, cette épargne, elle doit aussi, on l'imagine facilement, Carlos Lopez profitait à l'industrialisation, à laquelle vous consacrez de nombreuses pages dans votre ouvrage. En Afrique, l'une des success stories industrielles de ces dernières années, c'est l'Éthiopie, dont on a déjà beaucoup parlé à RFI. Beaucoup prédisent que le second pays le plus peuplé du continent va devenir le prochain atelier de l'Afrique, d'où son surnom de future Chine de l'Afrique. On parle de tout cela avec notre correspondant à Addis Abeba, Noé Ochebaudin. Bonjour Noé.
Bonjour Jean-Pierre.
Noé, ce qu'il faut dire, c'est que cette stratégie d'industrialisation en Éthiopie a commencé relativement tard.
Oui, une stratégie tardive, car l'Éthiopie a beau être un immense pays, c'est avant tout une nation rurale qui dépend en grande partie de son agriculture. Le secteur industriel était encore minime il y a 10 ans, 9% du PIB seulement. Signe du coup d'accélérateur de la dernière décennie, l'industrie représente aujourd'hui un quart de la richesse nationale. Alors ici, le potentiel est énorme, hein, avec 110 millions d'habitants, aussi bien un potentiel en termes de main-d'œuvre que de marché domestique. Mais c'est bien vers une industrie d'exportation que s'est tournée l'Éthiopie, en suivant en quelque sorte le modèle chinois avec une priorité donnée à l'industrie du textile.
Pour cela, Noé Ochebaudin, le pays s'est doté de grands ensembles, de grands parcs industriels dédiés aux investisseurs étrangers ?
Il y en a 15 en activité pour le moment en Éthiopie. Il y en aura 15 autres à l'horizon 2030 selon les autorités. Alors à quoi ressemblent ces parcs ? À d'immenses entrepôts alignés souvent en bordure de ville sur une centaine d'hectares en général. Tout cela protégé par de hauts grillages. Tous les matins, des milliers. Dans certains parcs, même des dizaines de milliers de travailleurs viennent à pied ou en bus rejoindre leurs ateliers. Le plus souvent, ce sont des ateliers de textile appartenant à des entreprises venues d'Asie ou d'Europe. Chaque parc a une thématique, 7 sont dédiés au textile par exemple, 5 aux produits agroalimentaires, 1 à l'industrie pharmaceutique et 1 pour l'industrie du cuir. 70 000 personnes y travaillent à travers le pays, mais le bilan est encore mitigé car certains de ces parcs sont encore à moitié vides, les entrepôts sont à moitié vides. Les entreprises qui viennent y installer leurs ateliers sont fortement incitées par les autorités éthiopiennes à exporter 100% des produits transformés.
Noé Ochebaudin, des dispositions fiscales sont également mises en place pour attirer les investisseurs, sans compter le prix de la main-d'œuvre qui est le plus bas du monde.
Oui, c'était un vrai slogan que claironnait l'Éthiopie. C'était une main-d'œuvre 7 fois moins chère qu'en Chine et moitié moins chère qu'au Bangladesh. Le salaire moyen dans ces parcs industriels est de 26 euros par mois, selon une étude américaine. Une main-d'œuvre bon marché, donc, qui a déjà attiré des grands du textile comme H&M, Decathlon, Calvin Klein ou Guess. Étonnamment, les difficultés rencontrées par les entreprises sont davantage liées au comportement qu'au salaire. Parfois habituées à une main-d'œuvre docile en Asie, certains industriels reconnaissent ici en Éthiopie devoir soigner particulièrement les relations humaines. Et pour finir sur le volet fiscal, en effet, il y a beaucoup d'exemptions, exemptions de taxes à l'export par exemple. Il y a aussi 10 ans d'exonération fiscale pour les entreprises qui viennent s'installer dans le pays.
Des exemptions fiscales dont Carlos Lopez nous parlait à l'instant. Merci Noé Ochebaudin. Carlos Lopez, est-ce que l'Éthiopie est sur le bon chemin, sur la bonne route ?
Vous savez, l'exemple de l'Éthiopie est très étudié par les économistes et aussi très observé par les leaders africains parce que les transformations sont rapides et la relation avec la Chine est profonde. Donc il y a beaucoup à apprendre, surtout comment l'Éthiopie a réussi à créer en si peu de temps les infrastructures nécessaires pour pouvoir vraiment donner un peu d'élan à ces parcs industriels. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de leçons aussi à ne pas faire à partir de l'exemple éthiopien.
Dites-nous lesquels.
Par exemple, le fait que l'Éthiopie a beaucoup misé sur la question du coût de la main-d'œuvre. Et le coût de la main-d'œuvre est en train de devenir un élément, disons, moins important dans les processus d'industrialisation de l'avenir. Parce qu'on peut remplacer une partie de la main-d'œuvre par l'automatisation, la robotisation. Donc, il faut avoir des projets industriels qui tiennent en compte l'évolution technologique. Même si, disons, le coût de la main-d'œuvre est un élément important, il ne doit pas être l'élément prépondérant, comme c'est le cas encore en Éthiopie.
Et quelles sont les autres erreurs qu'il faut éviter qui découlent de l'expérience éthiopienne ?
Je pense que l'Éthiopie a pas donné beaucoup d'attention au climat d'affaires, ce qui fait que la plupart de ses investissements sont des investissements étrangers. Donc elle a bien soigné ses relations avec l'étranger et les investisseurs potentiels venant de l'étranger, mais elle n'a pas vraiment créé les liens avec l'économie locale au point de pouvoir faire naître une classe entrepreneuriale nationale qui est effectivement celle qui est appelée à remplacer ces investissements étrangers dans l'avenir et qui peut introduire de l'innovation. Sinon, voyons, nous avons beaucoup d'exemples dans le monde où des parcs industriels qui ont été montés à partir de ce même modèle pour 10 ans d'exemption fiscale, après 10 ans, sont désertés par ces mêmes entreprises qui partent ailleurs pour le pays suivant, disons, qui leur donne encore 10 ans d'exemption. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut créer, disons, un tissu économique qui reste et qui progresse. Et cela ne se fait pas seulement avec l'investissement étranger.
L'un des exemples que vous pointez dans votre livre, l'un des exemples que vous donnez à vos lecteurs africains potentiels, c'est la manière dont le Vietnam a su développer une industrie navale en quelques années.
Voilà, donc nous avons beaucoup d'exemples de pays qui ont eu, disons, une espèce d'évolution dans la chaîne industrielle. Le plus on va dans des chaînes de valeur qui sont globalisées, le plus on a des difficultés parce que les fenêtres d'opportunité sont réduites et nous avons une batterie de difficultés quand on est retardataire dans l'entrée dans la chaîne de valeur. Nous avons des difficultés de propriété intellectuelle qui sont complètement concentrées. Nous avons des difficultés de régimes commerciaux qui sont devenus très complexes, qui ne permettent pas le même type de protectionnisme qu'auparavant. Nous avons des difficultés aussi de financement parce que le financement devient de plus en plus compliqué à fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle. Donc il faut dès le début avoir dans sa politique industrielle, c'est tenir en compte ces éléments pour pouvoir progresser d'un stade à l'autre. Et je pense que le pays africain qui a eu le plus de succès, c'est l'île Maurice, parce qu'elle est partie d'abord de la transformation agricole, surtout du sucre, l'industrie du sucre, grand exportateur, pour pouvoir installer à partir de cette latitude fiscale qu'elle a pu obtenir l'industrie textile. Ensuite, elle a évolué vers les services et maintenant elle est dans les industries de technologie de pointe. Donc, chaque fois, ils évoluent dans l'intégration à l'économie mondiale, mais avec plus de valeur et avec plus de sophistication.
Vous dites que la barrière est quand même très haute à sauter, que de plus ça va, plus les économies qui sont aujourd'hui développées mettent de facto des barrières très fortes à l'entrée, que les pays africains auront beaucoup de mal à surmonter ces obstacles qui leur sont opposés, qui sont la taille des investissements, la qualité des chercheurs, des techniciens, des gestionnaires.
Oui, les économistes connaissent le phénomène la seule façon de progresser, de pouvoir s'industrialiser, c'est d'imiter celui qui est devant nous, mais ne pas faisant exactement la même chose. Et je pense que si on prend les exemples les plus récents, qui sont ceux de l'Asie du Sud-Est, la Chine, etc., l'Afrique peut faire un certain nombre de choses qu'ils ont fait, mais ne peut pas faire exactement la même chose. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire différemment pour pouvoir se positionner pour la nouvelle vague d'industrialisation? Moi, je n'ai pas de doute. C'est la possibilité de pouvoir le faire d'une façon écologique, parce que l'industrialisation en Afrique va pouvoir bénéficier des prix d'énergie qui sont très bas pour le renouvelable, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le manque d'infrastructures permet de monter des infrastructures durables, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et la reconversion de ceux qui ont déjà, disons, ces systèmes industriels installés à baisser leur taux de carbone ou de pouvoir modifier leurs infrastructures est très élevé. Donc quand vous venez un peu en retard, vous pouvez sauter des étapes et aller directement sur des technologies propres. Et c'est ça qui va permettre à l'Afrique de faire une industrialisation légèrement différente de celle des pays de l'Asie du Sud-Est.
Alors, on va prendre peut-être un exemple, vous allez me dire si c'est un bon exemple. L'économie malienne est largement dépendante de sa consommation de pétrole, donc de carbone. L'utilisation des énergies renouvelables est limitée et l'importation d'hydrocarbures est vitale pour les entreprises du pays. C'est dans le secteur des transports que l'impact de la variation du prix du baril sur le marché international est la plus visible. Écoutez à ce sujet le reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs de Kaourou Magassa à Bamako, au Mali.
Aux heures de pointe, la ville de Bamako est congestionnée. Des milliers de véhicules roulent au pas sur des kilomètres d'embouteillage. Particuliers, taxis et autres transports publics dégagent la combustion des carburants achetés aux pompes des stations essence qui essaiment la ville. Aux abords du monument de la Tour de l'Afrique, Ibrahim Diallo, assis derrière un large bureau, fait ses comptes.
Les prix ne sont pas les mêmes au niveau des stations. Il y a des stations où on a 500 francs. Il y a des stations où on a 460.
Ces prix au litre et en francs CFA, Ibrahim Diallo les négocie en achetant de gros volumes de gasoil. Propriétaire d'une dizaine de camions, il dirige une entreprise de transport de marchandises qui sont acheminées vers les ports de la sous-région. Il débourse près de 750 000 francs CFA pour 1500 litres de carburant par voyage et par camion pour couvrir des distances de plus de 1000 km vers Abidjan, Conakry ou Dakar.
Là, nous, on joue si le carburant est descendu. Ça nous va.
La baisse du prix du pétrole observée en 2020 lui a permis d'augmenter quelque peu ses bénéfices. Des gains à relativiser tant la crise liée au Covid-19 a ralenti l'activité des ports.
Quand le camion peut faire une rotation, par mois tu peux faire 2 voyages, 3 voyages. C'est là que tu peux dire que vraiment on a eu du bénéfice. Mais tant que ce problème est là, notre bénéfice, ça rentre toujours dans l'eau.
Retour à la circulation, située à plus de 20 km de la Tour de l'Afrique, soit plus d'une heure dans les bouchons, les bureaux d'Issiaka Diakité ne désemplissent pas. Secrétaire général du syndicat des transports routiers urbains et interurbains, sa fédération totalise selon ses chiffres 30 000 adhérents. Pour lui, la vétusté des véhicules, leur forte consommation et les nombreuses pannes amoindrissent les marges des entreprises du secteur.
C'est le carburant qui prend à peu près 80% des dépenses. Donc nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'aider les transporteurs à avoir les nouveaux véhicules. Au lieu d'acheter les Ségomais venus de l'Europe, c'est ça notre lutte aujourd'hui.
Pays enclavé, c'est par le réseau routier que s'effectue la majorité des approvisionnements et des exportations du Mali. La montée des prix du baril sur les marchés internationaux de ces dernières semaines est scrutée à la loupe.
Si le carburant devient cher, ça veut dire que même les rues dans les marchés vont devenir chères. À l'approche du début des carèmes, là, ça nous inquiète vraiment.
Pour se faire entendre des autorités, les syndicats ont en un mois appelé à 2 reprises leurs adhérents à la grève.
L'État, c'est eux qui augmentent le prix de dédouanement, c'est eux qui peuvent subventionner, c'est eux qui peuvent réduire le prix, les taxes sur les carburants. Mais quand les taxes sont énormes là-dessus, là, les transporteurs vont récolter le pot cassé.
Au détail et à la pompe, le gasoil majoritairement utilisé par les voitures et les gros porteurs est vendu à 693 francs CFA le litre. Au départ, transporteurs et revendeurs d'hydrocarbures avec une flotte de 70 camions citernes de 55 000 litres, la compagnie Yara Oil se diversifie depuis 2015 en optant pour la vente aux particuliers. Avec un parc de 5 stations ultra-modernes en plus de 2 en construction, la compagnie malienne tente de se positionner face aux sociétés internationales telles Shell, Total ou Oryx qui dominent le marché. Moumouni Temé, directeur réseau de Yara Oil, est au cœur de cette stratégie de développement.
Il faut reconnaître qu'on est très satisfait avec l'affiliance et le captage en fait, du trafic sur nos stations. La concurrence elle est rude, chaque compagnie a sa stratégie en place. Yara Oil aussi a la sienne qui consiste à développer, à acheter des terrains sur les axes en développement, à négocier en fait, des partenariats avec des compagnies indépendantes qui sont en difficulté en fait, de récupérer l'air des autres afin d'augmenter notre part de marché dans le pays.
Au Mali et indépendamment de la fluctuation des prix du pétrole, la demande en hydrocarbures reste forte. Malgré des routes saturées dans les centres urbains, le nombre de véhicules en circulation est en augmentation constante.
Un reportage signé Kaourou Magassa à Bamako. Carlos Lopez, j'imagine que vous l'avez écouté attentivement. Alors, la décarbonation de l'économie malienne, c'est pas pour demain?
Oui, et c'est un excellent exemple parce que, vous savez, le pétrole représente 40% des exportations africaines vers le reste du monde. Et nous importons 70% des produits raffinés que nous consommons. Donc voilà un peu la photographie qui montre le modèle colonial dont je parlais. Nous ne transformons pas suffisamment et c'est vrai aussi pour le pétrole. Si on transformait un peu plus, on allait créer des chaînes de valeur autour du pétrole qui ne sont pas nécessairement celles que je défends parce que je préfère les énergies renouvelables, mais ça permettrait justement de créer l'espace fiscal et l'espace économique pour pouvoir faire les transitions écologiques qui dépendent aussi un peu de la forme comme on consomme l'énergie. Mais cela dit, un pays comme le Mali n'a pas besoin vraiment de pétrole pour beaucoup de ses besoins énergétiques. D'abord parce qu'il vient de découvrir dans la frontière avec la Mauritanie du gaz, ce qui va permettre de remplir une bonne partie des difficultés industrielles. Et nous avons aussi le potentiel du solaire. Et donc, beaucoup d'énergies renouvelables qui ne sont pas utilisées dans le Mali permettraient de diminuer cette dépendance et la volatilité des prix qui consomment une bonne partie de l'énergie des petits entrepreneurs, comme on a vu dans le reportage.
À la fin du reportage de Kaourou Magassa, on donne la parole à un entrepreneur malien qui monte son réseau de stations en service. Est-ce que ça, c'est pas l'appropriation, d'une certaine manière, d'une plus-value? Est-ce que ça n'est pas la création de valeur, de richesse par les Maliens, pour les Maliens?
Oui, mais si on suit la tendance mondiale, la plupart des grandes multinationales qui sont présentes en Afrique dans ce secteur ont commencé à vendre leurs stations-service et leur système de distribution à des locaux, parce qu'ils savent que, disons, il n'y a pas d'avenir en termes de valeur dans ce type de négoce. Dans l'avenir, pas immédiat, mais dans l'avenir, ils sont beaucoup plus intéressés dans d'autres types d'investissements qui va permettre justement de faire perdurer leur capacité de rentabilité. Et je pense qu'il faut faire attention parce que distribuer de l'essence n'est pas nécessairement ajouter de la valeur au-delà, disons, de l'opération commerciale en tant que telle.
On va changer diamétralement de sphère, on va passer du pétrole à un philosophe des Lumières que vous citez longuement, Carlos Lopez, dans votre livre. Ce philosophe des Lumières, c'est Jean-Jacques Rousseau. Vous vous demandez comment l'Afrique pourra concevoir et mettre en pratique un nouveau contrat social pour s'assurer que les jeunes dont vous parliez au début de l'émission en disant qu'un jeune sur deux bientôt sera africain, que les jeunes ne seront pas les laissés pour compte de l'essor des économies africaines. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau contrat social que vous appelez de vos voeux?
Moi, je m'inspire justement de l'idée du contrat social dans ses fondements philosophiques et qui se centrent autour de l'idée de la solidarité entre générations. Et si Rousseau l'avait formulé dans un contexte spécifique, nous avons vu à travers l'histoire une évolution du concept de contrat social pour l'établir d'abord au niveau d'une communauté, ensuite d'une nation, et ensuite si on prend les grands ensembles régionaux au niveau d'une région, comme par exemple l'Union européenne. Ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'il y a un tel changement démographique dans le monde, il est tellement paradigmatique, que nous avons une déchirure des traditions de solidarité entre générations telles qu'on les concevait, c'est-à-dire au niveau d'un espace sur lequel on avait des identifiants, comme par exemple un pays. Et ce que nous allons subir dans l'avenir, c'est un vieillissement accéléré de la population mondiale, notamment dans les pays les plus riches, et un rajeunissement gigantesque de la population africaine. Donc on est en train de demander, si on conserve le principe philosophique de la solidarité entre générations, on est en train de demander à des pays avec des populations âgées de conserver la planète et de conserver les moyens pour la génération future, qui sera en grande partie africaine. Et donc ça exige un contrat social global et un entendement que l'avenir du monde dépend aussi de l'avenir de l'Afrique.
Ça veut dire permettre l'émigration de ces jeunes Africains vers le Nord ?
En partie, oui. Et c'est dans l'intérêt des pays qui vieillissent de le faire. Parce que sinon, on se trouvera comme au Japon, où, par exemple, il y a déjà plus de 5000 personnes qui ont un âge entre 100 et quelques années de plus, et qui va diminuer sa population de 110 millions actuellement à 90 millions vers la fin de ce siècle, et qui a une moyenne d'âge qui est déjà autour de 48 ans et qui sera de 65 ans à la fin du siècle. Donc nous avons un pays qui a plus de décès qu'il y a de naissances, et un pays où il y a, disons, deux fois plus de vieux que de jeunes. Donc, s'il n'y a pas d'immigration dans un pays comme le Japon, les gens vont remplacer une bonne partie du manque de main-d'œuvre jeune par des robots. Mais franchement, est-ce que ce sera intéressant de vivre dans un pays avec des vieux et des robots ?
Carlos Lopez, ce livre, il est paru en anglais il y a 2 ans, donc j'imagine que cette idée de contrat social, vous en avez déjà parlé dans les médias anglo-saxons, à vos interlocuteurs. Quel est l'écho que cela rencontre ?
Normalement, les gens associent ce débat, quand je leur parle, au débat actuel sur les objectifs de développement durable et à l'agenda 2030 des Nations Unies, qui appelle de tous ses voeux à ce que, disons, il y a un certain nombre de biens publics globaux qui incarnent des intérêts communs, par exemple, pour reprendre le débat du jour, les vaccins. Mm-hmm. Et donc, normalement, immédiatement, on dit bah, il faut un vaccin du peuple. Mais ce qu'on voit, c'est un comportement qui est plutôt un comportement égoïste, où chacun essaie de tirer les ficelles pour profiter davantage et pouvoir répondre politiquement à sa population avant toutes les autres. Et donc, les pays qui ont le moins de moyens, finalement, sont ceux qui sont laissés pour compte pour toutes sortes de raisons. Ce que je démontre avec ce débat sur le contrat social nouveau, global, c'est que ça ne nous amène nulle part. Parce que oui, peut-être on va pas vacciner les Africains à la même vitesse et avec la même vigueur que ce qu'on fera dans des pays les plus riches. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que le virus va nécessairement disparaître parce que on a agi de la sorte? Bien sûr que non, on le sait. Donc la distance entre ce qu'on sait être nécessaire pour l'avenir du monde, c'est-à-dire inclure l'Afrique dans toutes les équations. Et ce qu'on fait est encore, disons, une distance considérable, mais elle va s'écourter à fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance des conséquences des grandes tendances mondiales, c'est-à-dire démographiques, écologiques et technologiques.
Merci Carlos Lopez. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre. Il s'appelle « L'Afrique et l'avenir du monde, repenser le développement ». Il est publié en français aux éditions du Seuil. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster via l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur